Paysans autrement, l'agriculture d'aujourd'hui et de demain sur Radio Territoria.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Territoria pour cette émission spéciale dans le cadre de notre semaine exceptionnelle consacrée à l'agriculture et à la ruralité. Bien sûr, émission en partenariat avec SEMAE, l'interprofession des semences et des plants et les émotionneurs. Vous pouvez également suivre cette interview sur villagesemences.fr, la chaîne YouTube. Émission exceptionnelle avec vous, Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargée donc de la ruralité. Émission exceptionnelle, je le disais, et à mes côtés, pour vous interroger pendant 45 minutes à peu près, Anne-Solange Muis. Bonjour Anne-Solange.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là également. Vous êtes présentatrice sur Radio Territoria et fondatrice de la maison d'édition Terre Urbaine. Il faut le dire. Voilà. Beaucoup de sujets, hein, évidemment. On va parler de la Covid-19 avec les conséquences et notamment les conséquences au niveau des violences faites aux femmes, parce que c'était la journée internationale du droit des femmes en début de semaine. Et c'est important qu'on évoque ce sujet, bien sûr. L'exode urbain aussi vers nos campagnes, l'agribashing, le développement de la 4G et les zones blanches, bien sûr, en France. Il en reste encore un peu. L'agenda rural, le plan montagne, bref. Le programme, évidemment, est chargé. J'avais quand même une première question qui est complètement liée, évidemment, à l'actualité. C'est ce phénomène de bandes, de rixes, qui se multiplie maintenant depuis quelques semaines. Alors peut-être que les réseaux sociaux amplifient aussi le phénomène, c'est-à-dire qu'on voit des images qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Cela étant dit, si on prend un exemple dans les territoires, en région, on a à Montpellier un exemple qui est assez effarant, où on a des jeunes qui sont entrés un peu comme des furies dans une école primaire pour venir chercher un sac de drogue qui était caché, qu'ils avaient caché dans l'école, avec des gamins apeurés, qui se cachent sous les bureaux, des instituteurs paniqués, etc. Bon, moi j'ai envie de vous poser une question toute simple, vous qui connaissez bien les territoires, qui connaissez bien aussi cette région. Au niveau sécurité, tout est sous contrôle, monsieur le ministre ?
On va dire qu'il y a quand même une politique qui consiste à mettre en œuvre des moyens supplémentaires, puisque sur le quinquennat, on est environ à 10 000 policiers et gendarmes en plus, ce qui ne s'était pas vu depuis fort longtemps, puisqu'on avait une baisse des effectifs. Bon, alors après, c'est l'organisation, je dirais, de tout cela qui est plus difficile à mettre en œuvre, et notamment la lutte contre les bandes. Parce que lorsqu'il y a des sacs de drogue cachés quelque part, c'est effectivement la lutte contre les bandes. Et il y a une politique qui a été mise en place par le ministère d'Intérieur sur les zones urbaines, et qui a commencé effectivement par l'Île-de-France, mais qui va s'étendre bien évidemment à la province, qui consiste à mettre en place des politiques spécifiques, une première réunion en mars dans la région Île-de-France notamment, de lutte contre justement ces bandes organisées. Parce que je crois qu'effectivement, ce sont des situations qui deviennent difficiles pour de nombreux, mais qui ne sont pas nouvelles, j'allais dire. En province, on connaît ce genre de phénomène, malheureusement, dans certaines villes que je ne citerai pas, parce qu'il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur une ville plutôt qu'une autre, mais c'est une réalité.
Mais Joël Giraud, est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'est ça la question que les Français se posent aujourd'hui, que fait la justice ? Parce qu'à chaque fois qu'un jeune est arrêté, alors qu'il a déjà été condamné 10 fois, 20 fois, 24 fois pour l'un d'entre eux, dans ceux qui ont été arrêtés récemment, il se retrouve dehors, à chaque fois, prison avec sursis.
C'est une question qu'il faudrait plutôt poser au garde des Sceaux.
Mon
sentiment personnel, c'est qu'il faut faire en sorte que nous arrivions à faire en sorte que certains actes délictueux fassent l'objet plutôt, j'allais dire, d'une amende dès le départ, pour qu'on ait une espèce de pédagogie de l'amende, parfois assez lourde. Qu'on ait également une pédagogie, ce qui est le cas à l'heure actuelle avec le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il s'agit de voir, quand les jeunes sont des jeunes délinquants, ce qui se passe au niveau familial. Donc il y a ces politiques qui se mettent en place, mais qui ne sont pas faciles, et ce, dans tous les pays d'Europe. On en a des phénomènes de plus en plus marqués, qui existent aussi, d'ailleurs, dans les campagnes les plus reculées. J'étais lundi dans le département de l'Allier, à Gannat, avec le ministre de l'Intérieur et avec le ministre de l'Agriculture. Et le Beauvau de la sécurité, c'est justement faire remonter un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques où, effectivement, il y a peu de condamnations. Quand vous avez des gens qui s'introduisent dans des fermes, par exemple, on est sur du droit commun, on n'a pas le droit de s'introduire chez quelqu'un comme ça, que ce soit un agriculteur ou qui que ce soit. Mais la difficulté, c'est aussi de se retrouver face à un système qui empoisonne tout le système judiciaire, alors qu'un système d'amende peut régler un certain nombre de sujets, notamment sur les problèmes de trafic de drogue, où les amendes forfaitaires importantes peuvent être, à mon avis, de meilleure pédagogie que
oui,
de mettre en place tout un processus.
La voiture de luxe,
et aller chercher la réalité des choses.
Ce qui se fait un peu déjà,
j'ai travaillé pour certains organismes du ministère des Finances qui travaillaient justement sur ce sujet-là. On le faisait, ça s'est amplifié depuis. Je crois qu'il y a des services spécialisés qui arrivent très bien à démanteler un certain nombre de bandes qui assurent gérer leur survivance via le blanchiment d'argent qui est lié à des actes de délinquance, souvent de la drogue, mais c'est malheureusement quelquefois encore plus grave. Il s'agit quelquefois de prostitution d'enfants, de mineurs ou autres, avec des réseaux internationaux très organisés.
Joanne Giraud, c'est vrai que la violence, elle est multiple, elle est multiforme. Et justement, alors nous avons vécu lundi dernier la journée internationale du droit des femmes. On sait que globalement, les confinements et autres couvre-feux ont fait exploser en quelque sorte les violences faites aux femmes. Est-ce également le cas à la campagne ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose, un phénomène qui se voit partout dans nos villes où on vit dans des petites surfaces ? Est-ce qu'à la campagne, c'est quelque chose qui est réel aussi ou pas ?
C'est une réalité. Ouais. Moi, j'étais allé voir en off un colonel de commandant un groupement dans un département archi-rural pour voir un petit peu ce qui était fait en la matière. Département qui avait fait d'ailleurs d'intéressantes statistiques sur l'évolution de la délinquance au fur et à mesure des différentes périodes de la pandémie Covid et des confinements ou des déconfinements. Et effectivement, c'était une explosion des violences intrafamiliales qui était absolument atroce, qui a connu d'ailleurs son paroxysme dans une zone rurale, puisque vous vous rappelez, dans le département du Puy-de-Dôme, des gendarmes sont morts pour aller protéger une femme qui était en train de succomber sous les coups de son mari. Donc ce sont des phénomènes qui ne sont pas qu'urbains, ce sont des phénomènes qui sont aussi ruraux, qui sont encore plus difficiles à mon avis, parce que dans la ruralité, c'est vrai que les gens sont plus
discrets. Est-ce que c'est un facteur aggravant, la ruralité, d'ailleurs ?
C'est pas un facteur aggravant. Disons que dans la ruralité, les choses ne sont pas dites toujours et tout de suite, mais pour autant, on connaît bien le réseau de la gendarmerie nationale et je vous prie de croire que les moyens qui sont mis en termes de gendarmerie nationale pour justement s'occuper des violences, notamment faites aux femmes, sont des moyens extrêmement importants et qu'il y a une sensibilisation du milieu de la gendarmerie nationale, puisque c'est elle essentiellement qui est sur les zones rurales. Il y a effectivement quelques zones de police, mais très peu. Et je dois dire qu'on a une attention vraiment très, 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 très particulière à cela. Je vous le dis, ça s'est traduit malheureusement par un drame.
Parce que vous parlez de la gendarmerie nationale. Et je voyais que les gendarmes disent qu'il faut aussi prendre en compte non seulement le fait qu'une femme se retrouve peut-être un peu isolée dans un milieu rural, on va dire, mais il y a aussi le phénomène de la vieillesse de la personne qui fait que la violence peut être encore plus importante contre elle. Donc femme et âgée égale en milieu
égale
rural.
Égale vulnérabilité absolue.
C'est incroyable.
Égale vulnérabilité absolue, c'est la raison pour laquelle, sur ces questions d'égalité homme-femme, qui sont des questions particulières, mais également sur d'autres questions, comme par exemple les LGBT dans les zones rurales, on a convenu avec Elisabeth Moreno d'avoir un travail commun. Et ce travail commun doit nous permettre d'aboutir à un certain nombre, j'allais dire, d'orientations en matière de politique publique dans les zones rurales. On a déjà vu outre Elisabeth et la politique qu'elle mène, parce que ce que je disais, le 8 mars, si c'est toute l'année, c'est mieux quand même. Ça serait quand même un réflexe normal. Il faut des politiques d'accompagnement, des politiques de pédagogie au niveau de la ruralité. Il faut des politiques de répression. Et là je
Mais est-ce qu'il y a les moyens, finalement? Est-ce qu'il y a vraiment les moyens?
La gendarmerie, avec son réseau de proximité et j'allais dire son comportement permanent de proximité, a quand même des moyens supplémentaires qui aujourd'hui permettent de couvrir un territoire, et notamment avec le relais des maires. Vous savez, on a mis en place une application avec l'Association des maires ruraux de France, qui est une application qui s'appelle Panneau Pocket, alors peu importe le nom, mais c'est une application qui, dans un premier temps, permet à la gendarmerie de faire passer un certain nombre de messages, justement, via les maires des communes rurales. Et vous avez dans des départements, alors j'étais dans l'Allier, donc lundi, comme je vous le disais, il y a quand même 32 communes ou interco qui sont adhérentes à ce système. Ça permet de faire passer des messages et de d'informer les gens sur un certain nombre de recours qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire quel est le correspondant de la gendarmerie qui va vous informer et qu'il faut solliciter lorsque vous avez des problèmes de violence, quel sera à terme, puisque nous en avons déjà discuté avec la direction générale de la gendarmerie, le référent qu'il faudra joindre lorsqu'il y a des problèmes de violence liés aux personnes LGBT+, ou autres d'ailleurs, mais qui se retrouvent par exemple dehors de leur baraque à l'âge de 15 ans, ce qui est un vrai, vrai sujet, un vrai problème. Donc, on arrive petit à petit à faire en sorte, avec Elisabeth, de cerner, je dirais, les différents problèmes pour tenter de trouver des solutions avec des associations relais, avec des gendarmes qui sont très volontaires sur un certain nombre de credos, qui spontanément viennent vous dire ce qu'ils peuvent
faire. Est-ce que les gendarmes
sont
bien formés face à ces situations ?
Alors, écoutez, en tout cas, le directeur général de la gendarmerie nationale est quelqu'un qui a beaucoup insisté sur la nécessité d'une formation qui est en adaptation à la réalité du terrain et de l'évolution de ce terrain. Oui. C'était son discours l'autre jour, et je pense que le Beauvau de la sécurité va considérablement, en zone rurale, faire évoluer les choses sur ce plan-là. Vous savez, les gendarmes sont des femmes et des hommes comme les autres, qui vivent dans la ruralité et qui connaissent bien ce milieu-là, ses avantages, mais aussi ses travers. Et je crois que c'est parce que la gendarmerie est très bien acceptée, je dirais, à la fois par la population, mais également par tous les élus qui sont des correspondants naturels de la gendarmerie pour informer des problèmes. Je crois qu'en renforçant ce lien, ce type d'application en fait partie, mais il y en a d'autres, nous arriverons à faire en sorte qu'en ruralité, nous ayons un système plus protecteur à la fois pour les violences faites aux conjoints, faites aux femmes en particulier, parce que c'est souvent les femmes qui sont les victimes des violences faites aux conjoints, mais également sur des questions d'orientation sexuelle et de violences faites aux personnes qui ont une orientation sexuelle.
Il y a un vrai problème là-dessus, au niveau rural,
oui,
aujourd'hui ?
Oui, il y a un problème partout. Il y a un problème partout, mais le problème, c'est qu'on est plus isolé quand on est en milieu rural, parce que, autant à Paris, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous savez quelle est l'association relais, quels sont les centres d'hébergement. Ouais. Quand vous êtes au milieu de nulle part, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il vaut mieux qu'il y ait des gendarmes formés pour justement vous orienter et aller vers des associations, qui sont des associations quelquefois à caractère national, qui pourront au moins héberger des gens et éviter qu'ils ne trombent dans des situations qui sont quelquefois celles de la drogue, de la déshérence totale.
Mmh. Les femmes en milieu rural sollicitent moins que les autres le dispositif existant comme le 39-19. Ça, c'est une réalité.
C'est une réalité parce que je pense que c'est moins connu aussi. Et justement, ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire l'information qui est faite via ces applications, va pouvoir permettre, à mon avis, dans mesure où aussi nous progressons sur le numérique en zone rurale, de faire en sorte que tout le monde ait accès à cette information de manière efficace et qu'elle soit bien relayée par les BT, les brigades territoriales de gendarmerie.
Bon, on va parler, évidemment, dans cette émission, paysan autrement, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, bien entendu. On va parler de l'agribashing tout de suite, jingle. Allez, l'agribashing qui visiblement recule. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Visiblement, les Français ont pris conscience de l'importance de leurs exploitants agricoles et de leurs agriculteurs. Alors, c'est un point positif. Alors, s'il fallait en trouver un, bien évidemment, de cette fameuse pandémie, hein, évidemment, de la Covid-19. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, Joël Giraud ? Est-ce que vous avez le sentiment que, ça y est, on est sorti de cet agribashing que l'on a vu pendant des mois et des mois avant que la pandémie n'arrive ?
Bah, écoutez, je pense qu'en tout cas, les moyens sont mis pour que les gens comprennent, et effectivement, vous avez raison, malheureusement, la pandémie y a contribué, que pour nourrir les gens dans une ville, il faut aussi qu'il y ait des paysans qui soient autour de cette ville. Et nous, on a des politiques spécifiques, je crois, qui comptent beaucoup, ce sont les programmes alimentaires territoriaux. Vous savez, c'est un programme qui est autour d'une intercommunalité, en général, plutôt grande, où il y a toujours une ville-centre, et la campagne qui est autour, et c'est l'organisation de l'ensemble des circuits courts autour de ce programme, y compris en commençant par ce qui est pédagogiquement le plus important, c'est-à-dire les cantines scolaires, bien évidemment. Mmh. Et au travers de ces programmes, qui étaient des programmes qui ont été lancés il y a finalement peu de temps, pour lesquels on a mis 80 millions d'euros supplémentaires sur le plan de relance pour développer encore les actions, ben les gens comprennent que la terre nourricière, elle est à côté de chez eux et que finalement, celui qui était côtoyé, c'est-à-dire le paysan dans son village qui était côtoyé sans forcément le regarder, est devenu quelqu'un d'important à leurs yeux. Mmh. Il y a aussi des programmes pour répondre à des véritables problèmes. Là aussi, j'ai visité un abattoir qui est un abattoir qui demande de l'argent dans le cadre du plan de relance. Ben, on s'est aperçu que le bien-être animal existait aussi. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, la réfection de cet abattoir comprend quelque chose qui est l'étourdissement d'un certain nombre d'animaux avant de procéder.
Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'agribashing, évidemment, est arrivé parce que on a vu toutes ces images de maltraitance d'animaux dans certains abattoirs, etc. Ça a choqué quand même un certain nombre de Français parce que des lanceurs d'alerte ont osé montrer les images. Donc voilà, le problème, il est là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faudrait pas, vous parlez des abattoirs, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, on a une agricultrice en France, par exemple, qui vient d'obtenir l'autorisation de pouvoir avoir un abattoir ambulant pour aller dans les fermes et abattre dans les fermes pour que les animaux ne soient plus stressés, parce que ça se ressent aussi dans la qualité du produit, la qualité de la viande à la fin. Est-ce qu'il ne faudrait pas démultiplier ce genre de choses ?
Je crois qu'effectivement, je parle en connaissance de cause, puisque j'étais député dans une circonscription où un abattoir allait fermer et nous ne pouvions le sauver que si l'ensemble de la filière se mettait, tous ensemble autour de la table et allait jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que l'éleveur est également le tueur au sein de l'abattoir, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de sa propre filière. Mmh. On a monté une SCOP, moi je suis même adhérent d'ailleurs à cette SCOP, parce que j'estimais que c'était un projet public qui m'intéressait, alors non pas en tant que député, mais en tant que consommateur, eh bien, cet abattoir aujourd'hui fonctionne bien. Il devient un modèle pour un certain nombre de territoires ruraux qui font des filières courtes, justement. Et les gamins des cantines chez nous mangent les agneaux issus, justement,
dans la région sud.
De cet abattoir. Mmh. C'est dans le département des Hautes-Alpes et dans le nord des Hautes-Alpes, à Guillestre, pour être précis. Mmh. Donc, tout ce qui relève de ces logiques de filières courtes, effectivement, ce sont des choses qui rentrent, bien évidemment, dans le plan de relance et qu'il faut aujourd'hui favoriser. Alors, il faudra toujours des abattoirs de grande dimension, parce qu'on ne peut pas non plus nourrir la planète en regardant simplement son nombril et en regardant ce qui est autour de soi sans se poser la question de territoires qui n'ont peut-être pas la chance aussi d'avoir un certain nombre de ressources. Moi, je suis dans un département où c'est pas forcément facile de faire mûrir après 1000 mètres d'altitude des tomates.
Bien sûr, bien sûr.
La confiture de tomates vertes, on connaît mieux.
Avec le réchauffement climatique, vous allez voir, vous allez y arriver.
Elle va rougir.
Oui.
Je vais faire un essai. Mais bon, je méfie parce qu'il peut geler en juillet. Mais mais toujours est-il qu'il faut à la fois qu'on ait des mesures nationales de grande ampleur sur les grands abattoirs, et ce que je viens de voir dans le département de l'Allier, c'est des gens qui veulent se positionner en numéro 2, peut-être un jour en numéro 1 de l'abattage de volailles, et quelque chose de très concret sur justement le bien-être animal. Ce que l'on peut faire localement sur des filières courtes, c'est aussi extrêmement important parce que ça vous permet tout simplement de mettre un terme à cet agribashing, parce que vous rentrez, vous voyez ce que font les gens. La filière est complètement maîtrisé de en haut jusqu'en bas. Ça coûte moins cher parce que les gens se transforment en éleveurs, mais également en tueurs de leurs propres animaux. Et on arrive à quelque chose qui finalement est extrêmement bien accepté par la population et qui évite l'agribashing. Cela étant, les lanceurs d'alerte, bon, c'est important, mais il ne faut pas aussi considérer que parce qu'un lanceur d'alerte...
Non, mais il ne faut pas être dans l'extrémisme non plus.
Voilà, met le doigt sur un problème, que tout le monde se comporte comme ça. Ouais. Il y a quand même, heureusement, dans ce pays, un pourcentage important de gens, dans tous les milieux,
qui font très bien leur travail, il faut le dire.
Voilà, c'est comme les journalistes, hein, il y en a qui font très bien leur travail,
voilà,
vous savez.
Regardez, par exemple.
Regardez,
ici.
Voilà.
Alors, dites-moi, Paysans autrement, c'est le nom de notre émission. On l'a choisi aussi parce que vous avez remarqué... Paysan, c'est plus une insulte. Et là aussi, à l'issue de cette crise.
Oui, c'est un mot normal que
c'est
j'ai toujours utilisé.
Quand même.
Oui,
mais alors, il fallait pas le dire pendant tout un temps.
C'est ça, mais pour des gens comme moi qui ne sont pas nés en ville, qui n'ont jamais habité vraiment en ville, puisque j'ai toujours fichu le camp le week-end, c'était un mot normal. Donc je suis heureux que dans les zones urbaines, ça redevienne un mot normal.
Eh ben voilà. Autre sujet, Joanne Giraud, enfin qui est en lien avec tout ça, bien évidemment, c'est l'exode urbain, justement vers nos campagnes. Beaucoup de Français choisissent de quitter le cœur des grandes villes, échaudées bien sûr par les confinements à répétition, pour rejoindre des contrées plus vertes. Tout d'abord, est-ce que la ruralité, parce que ça c'est un vrai sujet, vraiment a les moyens d'accueillir ces néo-ruraux ? Alors, moyens financiers, matériels, en termes d'infrastructures, de transport, etc., etc.
Oui, alors c'est tout l'intérêt, j'allais dire, de ce que l'on met sur la table en termes de politique publique et de déclinaison, en fait, de l'agenda rural.
Oui.
Parce que dans l'agenda rural, on a un certain nombre de mesures, 181 mesures. Effectivement, j'en ai rajouté d'autres, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'égalité aux femmes et les droits LGBT qui n'étaient pas initialement dans l'agenda rural. Mais les 181 mesures sont justement des mesures qui sont destinées à la ruralité pour que la ruralité se retrouve en situation d'équité territoriale par rapport aux zones urbaines. Si vous prenez l'exemple du numérique, par exemple, parce que c'est un des exemples qui me semble important, si vous voulez travailler en province ou travailler dans la ruralité, vous avez besoin quand même d'avoir des réseaux de bonne qualité. Bon, mais aussi des réseaux de transport. Parce que si vous n'avez pas un train qui va facilement...
Ah ben ça, beaucoup le constatent tous les jours.
Voilà, je veux dire, si vous n'avez pas un train qui vous emmène facilement là où vous devez travailler, les choses deviennent difficiles. Ben, écoutez, 4,7 milliards d'euros sur le plan de relance sur le ferroviaire, c'est quand même pas rien. Vous avez vu la signature récente de la convention sur les lignes secondaires avec la région Bourgogne-Franche-Comté.
J'entends tout ça, et en même temps, il y a quand même des exemples qui sont choquants. Si on prend l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, avec cette ligne entre, alors je ne sais plus, Bordeaux et une ville de Dordogne, dont j'ai plus le nom en tête, où tout d'un coup, on reçoit une facture de la région qui veut faire payer justement la navette qui a été mise en place. C'est absolument invraisemblable.
Ben oui, mais justement, c'est hors la loi. Moi, je l'ai rappelé, j'étais en Dordogne au moment où j'ai appris cette chose absolument lunaire. C'est la première fois de ma vie que je voyais une région qui demandait à des collectivités rurales et notamment des intercommunalités de payer en fait une meilleure desserte ferroviaire sur leur territoire.
Voilà.
Je l'ai dit à la réunion à laquelle j'assistais parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et je le répète ici, on est dans une logique qui est une logique entre guillemets mortifère qui est en plus illégale. La région n'a pas à émettre de titre de recette à l'encontre d'une collectivité parce qu'elle améliore la desserte ferroviaire qui est de la compétence de la région. Alors, au moment où, justement, on est en train de vouloir couvrir le territoire, votre question m'amène à ça, d'autorité organisatrice de mobilité. C'est-à-dire, on ne veut plus avoir de région où il n'y a aucune organisation territoriale. Alors, soit les intercos prennent cette compétence, mais ça ne veut pas dire qu'elles prennent la compétence ferroviaire, qui est la compétence régionale, mais elles prennent cette compétence pour mieux organiser les choses au niveau local, en fonction de l'endroit où vous êtes, parce que quand vous êtes dans la ruralité proche d'une agglomération, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans le rural diffus, bien évidemment. Mais les autorités organisatrices de mobilité vont pouvoir aujourd'hui se saisir de ce sujet, et si elles ne veulent pas s'en saisir, c'est effectivement les régions qui viendront pour s'en saisir sur leur territoire. Ce qui veut dire qu'on demandera aux régions de faire ce travail de desserte locale fine de manière plus efficace. Alors, ça n'est pas pour écouter des régions qui, effectivement, se débarrassent de leurs compétences vis-à-vis des intercos. Alors, c'est n'importe quoi.
C'est intéressant qu'on parle de transport, et pas que d'ailleurs, parce que je vais vous donner un exemple très simple que je connais bien, puisque chacun sa région.
Vous avez le droit.
Voilà. Donc, moi, par exemple, nord de la Gironde, 40 km au nord de Bordeaux, une commune, Guîtres. La poste fermée, la perception fermée, le bus qui passe tous les jours, parce que deux fois par jour pour aller à Bordeaux, que deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Bon, moi j'ai envie de vous dire, quand on habite dans ces territoires-là, c'est comme si on vivait une condamnation ou une assignation à résidence.
Bah écoutez, en matière de services publics, en tout cas...
Malgré les milliards que vous mettez sur la table.
Oui, mais quand même, il y a une... Alors, je ne sais pas exactement où est cette commune, mais ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir, où il y a d'ores et déjà, une maison en France Service qui a moins de 30 minutes, forcément, de l'endroit où vous habitez. Si elle n'est pas encore mise en œuvre, elle va l'être. Et de toute façon, l'engagement qui est pris pour qu'à la fin du quinquennat, il y ait une couverture totale du territoire...
Donc un lieu commun où il y a EDF, etc.
Un lieu commun où il y a un bouquet de services permanents, mais pas que les services qui sont partis et qu'on fait revenir. Vous parliez de la Poste, par exemple. Mais également des services nouveaux dont la ruralité a besoin, comme par exemple Pôle emploi. Pôle emploi, c'était uniquement dans les grandes villes, dans les chefs-lieux d'arrondissement au mieux et dans les chefs-lieux de département au pire. Pôle emploi revient via les maisons France Service dans des territoires. Et après, on voit des choses, si vous voulez, remarquables. C'est-à-dire qu'on voit, je suis allé dans la Nièvre, je donne souvent cet exemple, ça m'a marqué à Luzis et au pied du Morvan. La maison France Service, elle a rassemblé le couple emploi-formation sur la filière bois, bois-énergie et bois-construction, parce que, évidemment, le Morvan, c'est un endroit où il y a de la ressource. Et au lieu d'avoir simplement un guichet qui est un guichet où on recherche un emploi, on regarde on a besoin d'un conseiller par internet qui vous parle, ben vous avez une véritable politique sur cette ressource qui a été mise en œuvre et qui bénéficie aux entreprises qui s'installent sur ce territoire. Et ce territoire qui perdait des habitants n'en perd plus. Et ça, c'est une maison France Service. Donc les maisons France Service, elles sont aussi ce que les collectivités veulent en faire, et notamment les intercommunalités, bien évidemment. Et je crois que sur cette pierre où on a déjà 1123 maisons France Service, on va arriver à 2000 d'ici la fin du quinquennat, nous aurons vraiment des services à disposition auxquels vont se rajouter des tiers-lieux, des espaces de coworking, c'est-à-dire faire des choses intelligentes qui, quelquefois, sont entièrement, j'allais dire, globalisées sur un territoire. J'ai vu dans l'Aveyron, à Arvieux, Maison France Service, plus tiers lieux, plus habitat inclusif, tout ça dans un village dont je ne me rappelle plus la population, mais qui était très inférieur à 1000 habitants, il y avait plus de services que dans le chef-lieu de département à Rodez. Je dois dire que c'est ça aussi. Parce que vous savez, quelquefois en ville, c'est pas si facile que ça d'avoir accès aux services publics.
Ah ben ça, c'est vrai. Comme aux médecins et ainsi de suite. Voilà. Exemple, dans la capitale, il n'y a pas que, mais voilà. Quelques chiffres, tiens. Un récent sondage montre que 45% des Français veulent vivre dans une ville moyenne, 41% dans un village, c'est absolument considérable, et 10% dans une métropole. Donc là aussi, on sent quand même que les lignes ont beaucoup bougé, entendu.
Alors les lignes ont bougé, alors justement, parce que c'est souvent ces bourgs-centres, on va dire, où on aime habiter, parce qu'on aime habiter à condition d'avoir un bourg-centre bien structuré à proximité, où vous avez quand même un minimum de services. C'est la raison pour laquelle il y a une mesure de l'agenda rural qu'on a mise en œuvre et qui marche, mais vraiment très très bien, c'est l'opération Petite Ville de Demain. Petite Ville de Demain, c'est des communes de moins de 20 000 habitants, donc entre 0 et 20 000, on a labellisé des communes qui ont 700 habitants, où on met de l'ingénierie à disposition de la collectivité, de la commune bourg-centre, une ingénierie qui lui permet de ne pas passer à côté du train de l'ensemble des mesures, contrats territoriaux, relance, etc., et qui lui permet tout simplement de résoudre un certain nombre de problèmes. Là, ça peut être un problème qui est par exemple commercialement de devanture vide et de recherche quelquefois de nouveaux commerçants, ce n'est pas forcément les anciens commerçants qui vont venir, qui vous permet aussi, par exemple, quand vous avez un habitat, c'est malheureusement dans le cas de beaucoup de centres-bourgs en France, dans la ruralité, un habitat ancien, dégradé, d'avoir l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui vient vous monter un programme pour rénover cet habitat sur la collectivité. Quelquefois, ce sont des problèmes. Moi, je me balade 2 à 3 fois par semaine partout en France pour voir un petit peu ces problèmes-là. J'arrive à Barjols, dans le Haut-Var. Là, c'est une ville où il y a un tiers de la commune qui est occupée par une tannerie en ruine depuis plusieurs années. Et là, c'est une politique de mise en place d'un projet complet qui se fait avec l'établissement public foncier régional de la région provençale de Côte d'Azur et qui va permettre...
Là, ça peut être quoi ? Ça peut être de l'habitat pour les néo-ruraux qui viennent s'installer.
C'est de l'habitat. C'est de l'habitat parce qu'il y a de l'habitat dégradé, évidemment, comme dans toutes les villes anciennes qui sont des villes d'origine du Moyen Âge.
Bien sûr.
C'est également des pôles de services permanents, mais c'est également parce que c'est sur des terrains qui posent quelques problèmes en termes d'infrastructure, la mobilisation du CEREMA, du centre d'études, ce qu'on appelait avant le centre d'études des tunnels, mais qui maintenant fait toutes les infrastructures pour faire en sorte que l'on puisse conforter les falaises qui sont autour, chose qu'une ingénierie ne pourrait jamais se payer une commune de cette taille. Donc nous, en mettant de l'ingénierie dans les bourgs-centres, on sait que ça va rayonner sur l'intégralité de la ruralité.
Je vais donner la parole à Anne-Solange Muis dans un instant. Moi, je vais vous dire quand même...
Oui, parce que vous ne l'avez pas laissé beaucoup parler.
C'est vrai, mais parce qu'elle veut se concentrer sur quelques questions qui l'intéressent particulièrement. Non, mais juste une chose...
Dans le cadre de l'égalité homme-femme, si je puis me permettre.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais quand même, juste une chose qui, moi, me fait peur, c'est qu'on a déjà vu ça. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des gens qui habitent en ville, qui ont décidé de venir dans la ruralité, qui ont fait construire, etc., qui au bout de 5 ans, 6 ans, sont repartis parce que le poney club était trop loin, parce que le club de tennis était trop loin, parce qu'il fallait amener les gamins, il fallait une voiture, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte quand même qu'une fois que cette pandémie va être passée, etc., il y a un petit retour en arrière, quoi.
Vous savez, en la matière, il faut aussi, effectivement, j'allais dire, s'habituer au milieu dans lequel on vit. Donc, on arrive en ruralité, ce n'est pas pour porter plainte à chaque fois qu'il y a un coq qui chante.
Sans ça, merci évidemment, de le dire. Bravo.
Voilà, mais vous avez remarqué qu'on a donné un avis favorable à un texte de loi qui est passé au Sénat, alors qui a fait rire beaucoup de gens, mais ce n'est pas si risible que ça. Je veux dire, quand on va quelque part, il faut s'habituer à un mode de vie qui est un peu différent. Et moi, j'ai confiance parce qu'il y a aujourd'hui cette politique des 180 mesures de l'agenda rural simultanément. Alors, j'allais dire, c'est le hasard du calendrier avec la pandémie, mais qui fait que, justement, ce qui faisait que vous repartiez, parce qu'au bout d'un moment, vous avez un vague réseau ADSL, ou si vous êtes un couple, vous faites de l'alternance homme-femme, là, pour le coup, parce que vous n'avez pas assez de réseau pour passer vos messages et pour bosser. Bon, parce que la voie ferrée allait fermer alors qu'il n'y avait pas de travaux de prévu, donc vous vous dites, quand les gosses vont être à la fac, je fais comment ? Voilà, toutes ces questions très pragmatiques et très légitimes. Donc je crois que le retour en arrière sera d'autant plus difficile que même dans certains départements, les conseils départementaux vous proposent des politiques, comme dans la Nièvre, il y a essayé la Nièvre, on vous dit, venez 3 jours,
vous rendez compte. On voit des campagnes de pub partout.
Vous vous rendez compte,
Absolument. Et puis, ma foi, ça vous plaît pas. Après, chacun vit voit midi à sa propre horloge. Hein. Mais en tout état de cause, essayez et vous verrez.
Allez, Anne-Solange Muy.
Justement, Joël Giraud, vous ne craignez pas qu'avec ce nouvel attrait de la campagne, on ait davantage d'artificialisation des sols et notamment une dénaturation de ces caractères ruraux des villages. On l'a vu, hein, parfois, il y a des lotissements entiers qui viennent complètement détruire un caractère rural. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben écoutez, moi, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a sur un certain nombre de textes, dont le texte relatif au climat, un certain nombre de mesures en termes d'urbanisme qui font que, justement, on va changer un peu de paradigme. C'est-à-dire qu'on était sur de l'étalement urbain dans des communes rurales qui posent quand même pas mal de problèmes. Et on passe à quelque chose qui est la volonté d'utiliser toutes les dents creuses. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'étais maire pendant 27 ans, donc je sais ce que c'est d'avoir des plans de prévention des risques et d'avoir très peu de terrain qui sont des terrains constructibles. Mais pour autant, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui vous propose des politiques d'amélioration de l'habitat, le dispositif de Normandie ancien, lorsque Julien était ministre du logement, qui sont des politiques, là encore, très, très adaptées à la ruralité, va permettre quand même de réinvestir ces centres-bourgs où il fait bon vivre, où souvent, vous avez un habitat de grand caractère. Donc, il faut trouver un équilibre en tout. C'est-à-dire que dans les textes, bien évidemment, il y aura, j'allais dire, toujours nécessité d'aller un peu, on va dire, hors les murs d'une manière générale. Mais pour autant, je crois que la politique de lotissement tous azimuts, qui en plus a un autre défaut, et même des gens à l'Association des maires ruraux de France m'en parlaient récemment, c'est qu'on a gagné tellement sur les terres agricoles qu'il n'y a pas assez de terres agricoles pour que certains agriculteurs, de jeunes agriculteurs notamment, puissent s'installer. Donc, je veux dire, ne gâchons pas, vous avez raison, la terre nourricière qui en plus est la raison d'être même de la ruralité. Et si je peux me permettre, puisque je cite la MRF, de saluer sur votre antenne la mémoire de son président Vanik Berberian qui est décédé, son ancien président, et qui a été qui est le père de l'agenda rural. Parce que s'il n'avait pas été là, je crois que les 181 mesures aujourd'hui que je suis chargé de développer, elles ne seraient pas forcément en vigueur. Et l'hommage que nous devons lui rendre, c'est justement de faire en sorte que ces mesures prennent vie et prennent corps.
Et oui. Est-ce que vous pensez que l'équilibre des territoires ruraux par rapport aux métropoles, c'est vouloir les rendre concurrents des villes ? Est-ce qu'il faut arriver à ça ?
Non, il ne faut pas les rendre concurrents. Il y a un système qui n'est pas très développé à l'heure actuelle, qui sont les contrats de réciprocité. Alors, le contrat de réciprocité le plus parlant, c'est celui dont je vous parlais, c'est-à-dire le programme alimentaire territorial. Mais la réciprocité, ça peut être autre chose, c'est-à-dire considérer, par exemple, qu'on peut mettre en place des transports à l'échelle de ce qui est hors l'agglo pour essayer de faire en sorte que sur la ruralité autour de l'agglo, nous ayons ces autorités organisatrices de mobilité qui soient, entre guillemets, au travail et cofinancées par les recettes de l'agglo. Parce qu'en général, en ruralité, même si vous voulez faire en sorte que le versement de transport devenu versement mobilité arrive dans les caisses, vous n'avez pas assez de boîtes. Donc les boîtes sont plutôt concentrées dans l'agglomération. Donc ce sont des contrats de réciprocité. Et moi, je ne veux pas du tout opposer ville et campagne. Je veux simplement qu'il y ait un équilibre entre les deux et que les gens, en fonction des choix qui sont des choix personnels, soient heureux de vivre à l'endroit où ils sont.
Oui, parce qu'en fait, là, ce dont on a l'impression, en tout cas, c'est que, d'une certaine façon, on se plaint de la campagne parce que la campagne n'offre pas suffisamment de services par rapport aux villes. Et à la fois, le principal attrait de la campagne, c'est que ce soit la campagne, c'est-à-dire non la ville et, au contraire, un espace généreux en nature avec une qualité de vie qu'on ne va pas trouver en ville. Alors, comment on fait pour concilier à la fois ce développement territorial des milieux ruraux qui en ont besoin et en même temps garder cette qualité de vie qui est indispensable à la campagne, en fait.
Bah, écoutez, tout simplement, en inversant le paradigme urbanistique dont on parlait tout à l'heure qui était en vigueur jusqu'à présent, on n'a pas les moyens, ni en ingénierie, ni en fonds d'investissement, pour reconquérir le village et reconquérir le centre-bourg. Si on a les moyens pour le faire, il y aura forcément moins d'étalement urbain et on arrivera à une logique où, effectivement, on préserve les paysages. Je crois que tout le monde est garant de cela. Ça fait partie, j'allais dire, du patrimoine. Mmh. Au même titre que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas s'offusquer et porter plainte parce qu'il y a un coq qui chante. Quoi. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, très honnêtement, avec les moyens que l'on met sur l'ensemble de la ruralité, il n'y a plus une ruralité, dès lors qu'elle est volontaire, je veux dire, pour ça, parce qu'après,
J'allais dire, la politique, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Mm-hmm. Le ciel étant l'État, les régions, les départements.
C'est enfin, pas, nous, quoi, finalement.
C'est pas oui. tout ce qui tombe du ciel est béni, quoi.
Voilà.
Donc, nous, on a des politiques que l'on a voulu, avec Jacqueline Gourault, complètement cousues même. C'est à la main des intercos. Les préfets de département ont des crédits déconcentrés pour mettre en œuvre ces politiques. C'est pas l'administration centrale qui dit « faites ci, faites ça mm-hmm. ». Tout le monde se met autour de la table, mais il faut pour autant qu'il y ait un projet. La ruralité de demain qui va gagner, c'est la ruralité qui a un projet et qui nous demande simplement... Vous savez, moi, quand je signe les conventions pour Petite Ville de demain, on me dit merci pour l'ingénierie parce que ça, on ne peut pas se le payer. Oui. Et parce qu'on ne peut pas se le payer, parce que c'est sur le fonctionnement. Et vous savez ce qui se passe dans le monde rural. Un emploi en plus, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, voilà, c'est toujours la... dans les grandes villes, on bouge la fiscalité d'un point. On a quelquefois, en bougeant la fiscalité d'un point, le budget d'un département rural entier. Moi, je le sais bien, j'habite en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous jetez d'un point la fiscalité de la métropole de Nice, vous avez le budget du département des Hautes-Alpes. Mmh. C'est ça aussi la réalité des territoires. Eh bien, en mettant plus d'ingénierie, en ayant des partenaires, et j'en avais encore un qui est venu me voir hier, qui est un vice-président d'une région qui travaille sur les Ardennes, eh bien, on se disait comment peut-on mettre en place de l'ingénierie dans le cadre des politiques publiques que vous mettez sur un département comme celui-là qui souffre beaucoup. Et je pense qu'on va y arriver. Au-delà, je dirais, des clivages politiques et autres, moi, je m'en fous. Je veux dire, ce que je veux, c'est que les territoires avancent.
Est-ce que vous pensez que le modèle de biorégion peut être un avenir de développement pour les territoires ruraux, justement ?
Ouais, écoutez, ça peut être un modèle. Je veux dire, de toute façon, étant donné qu'on est dans des logiques qui sont des logiques où on importe énormément sur ce plan-là de produits bio, bon, pour autant, je dis simplement qu'il faut faire attention simplement à ne pas mettre sous ce couvert des normes qui, une fois de plus, ne seront pas forcément applicables territorialement à certains endroits. C'est pour ça que je parle toujours du circuit court et que je ne parle jamais forcément de bio, je parle d'agriculture raisonnée. Bon, en plus, je ne suis pas que d'origine française. Et quand je vois ce qui a été fait sur le slow food en Italie, par exemple, et qu'il y a du mal quand même à prendre le pain en France, oui. avec les politiques du
kilomètre... C'est quoi, kilomètre,
ben, grosso modo, c'est parler d'agriculture raisonnée et de nombre de kilomètres entre la zone de production et l'agglomération, la zone de consommation, où on arrive à faire des choses extrêmement intelligentes et ça marche très, très bien. Et je crois que les PAT, justement, j'insiste là-dessus, les programmes alimentaires territoriaux, c'est cette logique du slow food, mais adaptée à tout un territoire. Je préfère cette notion à celle de biorégion parce que, d'abord, elle est plus restreinte, mais elle permet quand même d'avoir une réalité qui est une réalité du kilomètre zéro en matière de politique alimentaire et du kilomètre zéro aussi en politique de transport. Parce que quand je vois certains produits bio, ce que je disais à quelqu'un qui me disait il faudrait plus de bio quand j'étais encore maire sur votre cantine, bah, j'ai écouté, il y en a bateau à côté qui fait des choses très bien. Dis, oui, mais regardez, moi, je prends que de la viande bio de bœuf. Et je lui dis, vous savez ce que ça veut dire GmbH qui est là, sur l'étiquette ? Il me dit, ben non, pourquoi ? Je dis, ben GmbH et SARL en allemand. Votre viande vient d'Allemagne. Mmh. Et j'ai regardé le code importateur, regardez-le. Il me dit, c'est quoi ? Ben, je dis, c'est Ankara. Je dis donc,
ah oui.
J'ai dit, vous voyez, le bilan global, en plus, je suis sensible à ce qui est le surcamionnage dans les Alpes, évidemment, comme bah oui. personne qui habite là-bas. Oui. Je dis, le bilan global, le bilan carbone de votre viande, je vais vous dire, je continuerai à faire acheter à l'abattoir à côté, pour ma cantine, les agneaux qui ont été abattus là dans une filière locale. Ça me semble plus profitable pour tout le monde.
Allez, on poursuit évidemment cette interview, Joanne Giraud. La 4G. On en est où en France aujourd'hui concrètement ?
Ben écoutez, alors très concrètement, aujourd'hui, le bilan que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'en 3 ans, nous avons fait plus qu'en dans les 10 dernières années. On arrive aujourd'hui à
plus, d'accord.
que dans les 10 dernières oui. années. C'est la réalité des chiffres, sachant qu'à l'heure actuelle, on en est à 96% de couverture par un seul opérateur et à 76% de couverture par l'ensemble des opérateurs. Donc, c'est une politique qui est boostée avec, là aussi, un changement de paradigme. Parce que qu'est-ce qu'on faisait avant en matière de 4G ? On disait aux opérateurs, ben, vous couvrez les zones que vous voulez couvrir, grosso modo les agglomérations les plus importantes ou les itinéraires les plus importants. Et puis, pour ce qui est des endroits un peu plus reculés, ben, les collectivités se regroupent, font des appels à projets et se débrouillent à trouver des financements. Nous, on a dit autre chose. La politique du New Deal en la matière, c'est
On repère souvent, d'ailleurs c'est une analyse faite conjointement par les conseils départementaux et les préfectures, on repère les zones où il y a des zones blanches qu'il faut couvrir. Tout ça est remonté chez mon collègue Cédric O, dont je vous rappelle que Cédric, au titre de sa mission, est à la fois sous la tutelle de Bercy, mais aussi du ministère de la Cohésion des Territoires.
Donc,
il est chargé effectivement du secrétaire d'État chargé du numérique. Il prend des arrêtés petit à petit pour couvrir les zones qui sont les zones blanches. Et à chaque fois, pour être clair, c'est l'État qui paye et qui désigne un opérateur pour le faire. Alors le boulot qu'on a, nous, c'est à surveiller que les opérateurs suivent bien le cahier des charges et que ça va assez vite.
Ça veut dire, à la fin du quinquennat, par exemple, on peut dire quoi que
pratiquement tout
le territoire sera couvert.
Hormis quelques zones vraiment très particulières où il faudra trouver des solutions qui sont souvent des solutions satellitaires. Hein. Oui. Mais tout sera couvert. Et parallèlement, là aussi, avec une députée qui s'appelle Célia Delaverne de la Drôme et Cédric, on a mis en place une surveillance particulière sur tout ce qui relève des réseaux cuivre, c'est-à-dire les réseaux classiques de téléphonie, pour qu'on n'ait pas des réseaux cuivre qui tombent en ruine complètement alors que la 4G n'est pas encore arrivée. Et ça existe. Donc nous avons rencontré le PDG d'Orange qui a très bien compris la problématique et qui va proposer une série de mesures de façon à ce qu'on ait vraiment quelque chose qui colle, je vais dire, à la substitution par la 4G. Donc je crois que là-dessus, on avance à chaque fois avec « Ok, on paye, mais on est exigeant ».
Bon, on verra si la 5G, ça se passe de la même manière par la suite. Mais bah, écoutez, priori, non, puisqu'il y aura déjà les pylônes, donc il n'y aura plus qu'à.
Bah, voilà. Et puis la 5G, il faut être clair, ce qu'on a obtenu en arbitrage aussi sur la 5G, c'est de faire en sorte que sur des zones qui sont en milieu rural, mais où il y a des gros besoins en termes de capacité, parce que vous avez une entreprise qui peut avoir des grosses capacités nécessaires en termes d'envoi de fichiers. Quand vous avez des modèles un peu compliqués, un peu complexes à envoyer, vous avez des zones qui sont en bout de territoire, qui sont des zones touristiques, où vous avez les agences immobilières, vous avez les offices de tourisme qui ont besoin également de grosses données. Eh bien, il y a des programmes spéciaux d'équipement de la 5G dans ces zones. Le Premier ministre en a parlé au congrès de l'Association nationale des élus de la montagne pour que justement dans ces zones-là, on n'ait pas de gap entre une 4G qui serait de capacité insuffisante et la réalité du territoire. Donc il y a déjà des expérimentations en 5G dans des zones de montagne qui sont plutôt reculées, mais qui en ont besoin.
Puisqu'on parle de la montagne en un mot, je sais que vous allez dans les heures qui viennent avec Jean-Baptiste Lemoyne, qui est chargé du tourisme en Haute-Savoie, hein, je crois, c'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Vous défendez une montagne plus résiliente. Alors d'abord, il faut quand même se rappeler que la montagne, et Jean-Baptiste Lemoyne le dit lui-même, les grandes stations en tout cas ont souffert, hein, que ce soit elles dans les Pyrénées, les Alpes, etc. On est à des moins 40, moins 50%, enfin c'est assez considérable avec ces fermetures liées évidemment à la Covid-19. Quand vous dites une montagne plus résiliente, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire tout simplement que là encore, on a deux choses, si vous voulez. On a mission de la part du Premier ministre de mener deux choses de front. Moi, j'ai un programme national montagne que j'avais lancé d'ailleurs avant la crise de la Covid. Et à la suite de la crise de la Covid, il y a un programme d'investissement en montagne. Donc, acte 1 sur le programme national montagne, c'est là aussi de faire en sorte qu'il y ait une ingénierie qui soit spécialisée, qui soit mise à disposition des territoires. Parce que, par exemple, quand vous avez des lits froids, des copropriétés qui sont des passoires énergétiques, qui ne sont plus habitées par personne parce que c'est une catastrophe énergétique, ben, il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Et jusqu'à présent, on ne l'a jamais mis. Donc, c'est un des items important, j'allais dire, évidemment, parce que les lits froids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, y compris les gens qui vendent du forfait remontée mécanique, ben, ils n'ont pas assez de gens pour solvabiliser leur installation. Le tourisme social, où il en est de même, qui relève de la même logique, vous savez, des stations très célèbres, pour ne pas citer beaucoup de noms de stations, mais Courchevel, un jour, l'ancien maire m'avait dit le problème de la fermeture du tourisme social, c'est que ça désolvabilise ma station. Alors que quand vous voyez Courchevel, vous avez l'impression que bon, mais c'est pas parce qu'on a un manteau de fourrure en triple vison que pour autant on va faire du ski et qu'on paye des forfaits de remontée mécanique. Et puis résiliente, ça veut dire aussi que il y a des pays qui y sont très bien arrivés. En Suisse, en Autriche, vous allez en villégiature en montagne. Et quand vous êtes en villégiature en montagne, vous faites du ski, mais pas que.
Ce qui veut dire d'ailleurs que la montagne est commercialisable toute l'année. La commercialisation de la montagne...
Mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui,
été, non ? La commercialisation des activités en montagne en été, je vais vous dire...
C'est pas en progression quand même ces dernières années.
Mais c'est en progression au sens des chiffres.
Oui.
Mais c'est pas en progression au sens de l'offre touristique qui est proposée.
Ah oui.
Parce que vous avez tout un tas d'agents qui sont parfaitement indépendants. Vous avez là du kayak, vous avez là de l'alpinisme, vous avez là de l'escalade. Et à chaque fois, vous avez tant d'opérateurs qui, en général, d'ailleurs, ont des offres très diversifiées. Il faut aller vraiment sur les sites des offices de tourisme pour trouver l'offre. Et si on package bien cette offre, on arrive à avoir non seulement, j'allais dire, des clients plus nombreux, mais plus nombreux aussi dans la durée. Parce que l'hôtellerie, les infrastructures, tout cela doit suivre également. Donc il faut qu'on ait ces politiques-là de villégiature en montagne. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le ski, loin s'en faut. Il y a des zones où, territorialement, soit parce qu'il y a des gouttes froides qui sont liées au fait qu'il n'y a pas de grosses agglomérations à côté. Moi, j'en fais partie. Je suis dans le massif des Écrins. Bon, on n'est pas... On n'a pas des très grosses agglomérations de proximité. Donc, on a encore de la neige et pas mal de neige en altitude et même en basse altitude. Il y a d'autres endroits où, en revanche, le réchauffement climatique se fait plus marqué.
Donc, il faut trouver d'autres solutions pour que la montagne vive
globalement,
au niveau touristique.
Ça. D'où la notion de villégiature que j'aime beaucoup, parce que c'est celle qui avait été employée la plupart du temps en Suisse et qui vous permet tout simplement d'avoir une montagne habitée toute l'année avec des services à la population, avec... justement des activités touristiques, mais les activités touristiques solvabilisent les services à la population.
Et puis demain, on aura moins de glaciers, mais plus de lacs aussi, a priori, avec le réchauffement climatique.
Donc on pourra aller à la pêche.
Je suis pêcheur devant l'Éternel, donc je peux vous garantir
que
c'était le lien que vous vouliez faire.
Bon, Joanne Giraud, on va terminer cette émission avec quelques questions politiques. C'est parti, jingle. Joanne Giraud, la première question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit, il se passe quand même beaucoup de choses. Par exemple, pour la ruralité, on l'a dit tout au long de cette émission. Et en même temps, on se dit, est-ce que tout ça servira véritablement le président de la République, Emmanuel Macron, si jamais il se représente, ce qui a priori sera le cas, en 2022 ? Est-ce que vous croyez que ça peut vraiment servir tout ce qui a été fait, là, qui est très concret, le président de la République ?
Écoutez,
vous savez comment ça se passe pour une présidentielle.
Je sais comment ça se passe, mais je sais aussi que quand on sillonne le terrain en expliquant cette politique publique, comme je le fais d'ailleurs à votre antenne, et merci à celles et ceux qui ont des radios ou des télévisions qui s'intéressent au phénomène, je dirais, de la province, eh bien, ce qu'on constate, c'est que les gens sont plutôt contents de ce que l'on propose. Alors après, est-ce que ça s'en traduit en intention de vote ? Je ne suis pas devin. Cela étant... le fait d'être un peu un VRP de la ruralité et de la politique publique menée par le président de la République, par Emmanuel Macron et le Premier ministre, me semble être de nature, effectivement, à faire en sorte que les campagnes se sentent moins abandonnées et n'aient pas les mêmes réflexes qu'ils ont pu avoir, justement, au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment de précédents scrutins, où, effectivement, bon, pour être très clair, les scores extrêmes étaient considérables dans des zones où il n'y avait pas de problème de délinquance, où il n'y avait pas tous ces problèmes-là.
Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, dans tous les sondages aujourd'hui, pour la présidentielle, Marine Le Pen est qualifiée, quoi qu'il arrive, pour le second tour. Et si on regarde au niveau des territoires, prenez l'Occitanie, par exemple, qui, à la base, n'est quand même pas une terre extrême, tous les sondages montrent que la présidente d'Occitanie pour les régionales est quand même un peu en danger face au Rassemblement national. Donc ça veut dire aussi que tout le travail qui est fait par les élus aujourd'hui qui sont en place et qui parfois est un travail concret et qui peut effectivement apporter des choses sur le terrain, finalement n'est pas forcément reconnu par les gens et que le vote est complètement détaché en réalité de la réalité de ce que vous faites.
Il peut être détaché, mais lorsque vous voyez 2 à 3 territoires par semaine, lorsque vous allez sur le terrain, je peux vous garantir que la machine peut parfaitement s'inverser. Et moi, j'en suis persuadé parce qu'au bout d'un moment, vous savez, quand vous parlez au maire d'un village de 1000 habitants, tous les conseillers municipaux qui sont là et qui voient ce qui se passe sont, j'allais dire, dans les familles qui représentent la totalité du territoire. Donc ces gens-là qui voient la réalité de ce qu'on fait sur le terrain et que ce n'est pas du flanc, je veux dire, on n'est pas en train de dire il y a une politique. Quand je vous dis les petites villes de demain, par exemple, quand j'annonce qu'il y a 3 milliards sur 6 ans C'est pas 3 milliards là pour dire on fait un coup et puis après on se barre parce qu'il y a les élections présidentielles et on verra bien ce qui se passe après. C'est pour dire on met ça dans la durée et faisons en sorte de ne pas interrompre une machine qui gagne pour la ruralité. Mais je crois que le discours passe de plus en plus et je suis persuadé que le score du président de la République dans les territoires ruraux sera bien différent de ce qu'il a été lors des précédents scrutins.
Donc vous nous confirmez que le président de la République se présente en 2022 ?
Bah écoutez, je l'espère. En tout cas, ouais. Je vais être clair. Je l'espère et je fais tout pour.
Ouais. Elle vous fait peur, Marine Le Pen, quand même ? Parce que vous avez vu, hein, maintenant, elle a un programme écolo,
oui, non, non, mais elle me fait peur d'une manière générale. C'est-à-dire parce que ça, c'est pas seulement... elle m'inquiète parce qu'effectivement, il y a un petit côté où on lave plus blanc aujourd'hui. Mais les fondamentaux restent les mêmes. C'est simplement, on les met... mais regardez partout en Europe. Quand des partis de ce type, de la droite extrêmement réactionnaire, sont arrivés au pouvoir, ça n'a pas duré très longtemps, y compris avec des gens comme le chancelier Sébastien Kurz en Autriche. Et les très mauvaises idées que véhiculait l'extrême droite autrichienne n'ont jamais été mises en œuvre. Donc je pense que l'exemple qui est celui des très mauvaises gestions de l'extrême droite italienne, autrichienne, allemande de l'AFD dans les Länder pourront être, j'irais dire, bien présentés au moment des élections présidentielles.
Dernière question sur les régionales et dans la région sud, donc oui. Que vous connaissez bien. Est-ce qu'il faut un ticket entre le président sortant, Renaud Muselier, et Castaner?
Ah bah écoutez, d'abord, la chef de file pour ces élections a été désignée, c'est Sophie Cluzel.
Avec Castaner, je veux dire, la République mais voilà. En marche.
Mais en tout état de cause, bon, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de logique d'accord qui est en train de se mettre en place sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Mais vous l'appelez de vos voeux, parce que vous connaissez bien Muselier, vous, par exemple.
Moi, je connais très bien Renaud, bien évidemment. Mais Sophie Cluzel a été à l'école avec lui, donc aussi.
Donc, ça peut rapprocher, le cas échéant.
Ça peut rapprocher. Mais en tout état de cause, je crois qu'il faut présenter un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Et puis le rassemblement pourra se faire au deuxième tour de manière assez naturelle. Christophe Castaner s'était sacrifié, j'allais dire, la dernière fois. Là, je serais plus sur une logique où il faut qu'il y ait des partenariats réels qui se mettent en œuvre parce que cette région a besoin aussi d'un souffle de modernité en politique. Je crois que les régions françaises en ont besoin d'une manière générale. Les régions sont des collectivités jeunes. On n'est pas un pays fédéral.
Je rappelle que vous n'avez pas d'élu, La République En Marche, hein, aujourd'hui, dans les régions.
Absolument, enfin. Absolument.
Voilà, donc ça va être difficile, peut-être.
Ça va être forcément difficile, mais je crois que faire souffler un vent de modernité sur la politique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est quelque chose qui est possible et qui peut être incarné par Sophie Cluzel. Et les rassemblements, eh bien, s'ils doivent se faire, ils se feront avec des gens qui sont sur un socle républicain. Et je pense que Renaud Muselier est sur un socle républicain.
Eh bien, on verra ce qui se passera. En tout cas, merci beaucoup, Joël Giraud, d'être venu nous voir pour nous parler ruralité sur Radio Territoria. Interview, évidemment, à retrouver à volonté sur Radio Territoria, sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube également, Village Semences, puisque nous sommes partenaires
d'accord. À volonté ou à discrétion ?
Oh, à discrétion, comme voilà. Vous voulez. En tout cas, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Bon, merci beaucoup, en tout cas.
Merci
et puis,
à vous.
J'espère à très bientôt sur Radio Territoria.
Paysans autrement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.